Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce matin, je vais prendre un petit peu de votre temps. J'irai jusqu'à peut-être, midi un quart, si ça vous dérange pas. Je vous salue dans le bon nom et précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas eu l'occasion de vous formuler mes vœux à l'aube de cette nouvelle année. Alors mes vœux pour vous se trouvent dans le psaume 20, les versets 1 à 5 que je vous recommande de lire à la maison. Et ce matin, je vais naviguer entre deux versions. La lecture du texte se fera dans l'ancienne version seconde et j'utiliserai la nouvelle version seconde pour le développement. Mais vous comprenez que l'essentiel, c'est que l'on s'y retrouve, hein, et dans ce que l'Esprit veut nous transmettre ce matin. Le texte concerne Israël, bien sûr, mais l'idée, c'est que nous transposons la conduite d'Israël à notre vie. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour en tirer des riches bénédictions. Prions. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi, plus que d'habitude, plus qu'il y a une minute, et pendant tout ce temps que tu me donnes encore pour la délivrance de cette méditation. Je te prie d'avoir un regard favorable sur chacun de tes fidèles ce matin, des frères et des sœurs, que tu puisses disposer nos cœurs, et que tu puisses me permettre d'enlever tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie pour que ça soit toi seul qui brille à travers toutes choses ce matin. Au nom de Jésus. Amen. La question qui a été posée à un groupe de personnes est celle-ci. Où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Et je vous propose quelques-unes de leurs réponses. Ben, tout simplement en me répétant « quoi qu'il arrive, cela ne pourra pas au grand jamais être pire qu'hier ». Première réponse. Je la puise dans les encouragements et les compliments que me font les gens que j'aime. Autre réponse. Je me remotive tout seul. Je puise dans mes réserves de courage comme un bon petit soldat. Tous les matins, je me dis que c'est mon devoir, qu'il faut que je me l'assume. Où puisez-vous la force, le courage, la confiance en vous qui vous fait parfois défaut? Dans des futilités, parfois cela peut aider, sait-on jamais. Autre réponse très courte, à vider quelques bouteilles avec les amis. Il y a des jours avec et des jours sans, mais je dois ma force à des amis, en grande partie, des anges venus de nulle part quand on s'y attendait plus. Et puis enfin, dans la méditation ou le sport, en plein air, ou tout simplement une bonne marche en pleine campagne, ou dans un parc pour se vider l'esprit et se concentrer sur les vraies priorités de se faire reprendre reprendre la force pour affronter les épreuves. Voilà quelques-unes des réponses, et j'espère que on ne s'y est pas retrouvé. Et ce matin, je vous invite à la méditation d'un verset bien connu dans la Bible qui apporte une autre réponse, une réponse même radicalement différente à cette question posée dans ce groupe. Ce verset, c'est le verset d'Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui dit que c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Et je vous propose de lire ce verset avec son contexte, et nous commençons la lecture au chapitre 30, donc du livre d'Ésaïe au verset 1er. Ésaïe chapitre 30, je lis les versets 1 à 15. C'est une longue lecture, je vous demande d'être patient. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. pour accumuler péché sur péché, qui descend dans l'Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Soan et ses envoyés ont atteint Annès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des maîtres du Midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à Dodan leurs richesses, et sur la bosse des chameaux leurs trésors, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela bruit du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, aux prophètes, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de notre présence, le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace la ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écoulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Verset 15. C'est ainsi à parler le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Si je dois donner un titre au message ce matin, ce sera « La confiance, une force pour le chrétien ». La confiance en Dieu, une force pour le chrétien. Je vous propose un plan très simple ce matin, quelques mots sur le contexte, en particulier le contexte historique de ce passage, et puis l'explication du verset, et enfin quelques mots d'application pour nos vies. Ésaïe, vous le savez, certainement est un prophète du Sud. Et sa prophétie concerne le royaume du Sud, le royaume de Juda et Jérusalem. Ésaïe va exercer un ministère prophétique pendant plusieurs règnes. Les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Ce sont tous des rois de Juda et peut-être même qu'il exercera une partie de son ministère pendant le règne de Manassé qui vient après Ézéchias. La tradition juive, je dis bien la tradition juive, rapporte dans un livre apocryphe qui s'appelle « L'Ascension d'Ésaïe » qu'Ésaïe serait mort martyr. Il aurait été poursuivi par le roi Manassé, se serait caché dans un tronc d'arbre et là, il y aurait été scié en deux. Le ministère d'Ésaïe est le ministère le plus long de tous les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Il dure environ une soixantaine d'années, environ de l'an 740, jusqu'à l'an 680 avant Jésus-Christ. Et il commence l'année de la mort du roi Ozias. Le roi Ozias et le roi Jotham qui lui succédera sont les deux premiers rois du ministère d'Ésaïe. Ce sont de bons rois qui vont faire, comme la Bible dit, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et sous leur règne, donc, d'Ozias et de Jotham, Juda, le royaume du Sud, va connaître un temps de prospérité. Mais le roi qui va succéder à Jotham, le roi Akaz, va amener beaucoup de changements dans le royaume de Juda. C'est le retour au culte de Baal. C'est le retour aux idoles. C'est la pratique des sacrifices d'enfants qui s'installe dans le royaume de Juda. Et c'est pendant le règne d'Akaz, le troisième roi du ministère d'Ésaïe, qu'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, va faire alliance avec la Syrie en faisant une coalition pour attaquer Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe, ayant été averti de cela, met Akaz au défi, devant cette menace de se confier en l'Éternel. Mais Akaz refuse, Akaz ignore les conseils du prophète Ésaïe. Et plutôt que de se tourner vers l'Éternel, Akaz va faire appel à l'aide du roi d'Assyrie, de l'Assyrie, Tiglath-Pileser. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. L'Assyrie qui est à l'époque la puissance dominante. Et Tiglath-Pileser va répondre promptement à l'appel au secours d'Akaz. Et en 732, avant Jésus-Christ, Damas, la capitale de la Syrie, en deux mots, la Syrie, va tomber aux mains des Assyriens. Et dans la foulée, le royaume du Nord va être subjugué, assujetti par les Assyriens. Juda, le royaume du Sud, est alors réduit à un état vassal de la Syrie. Un tribut annuel, frères et sœurs, un grand tribut annuel doit être payé aux Assyriens. Le roi Akaz, le quatrième roi du ministère d'Ésaïe, va prendre en quelque sorte le contre-pied total de son père. Le roi Akaz, il est délibérément anti-assyrien. Alors donc, vous comprenez bien que la politique, c'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un bon roi. Et il va chercher conseil auprès du prophète Ésaïe. Et c'est ainsi qu'avec Ézéchias, le pays va être nettoyé de toutes ses idoles. Tous les hauts lieux vont disparaître. Les portes du temple qui avaient été fermées sont à nouveau ouvertes. Et le culte de l'Éternel est à nouveau célébré. J'ai presque terminé le contexte, car c'est important pour bien situer les choses et pour que l'on puisse bien mesurer la force de notre verset 15 ce matin. En 705 avant Jésus-Christ, va avoir lieu un changement important dans le royaume assyrien. Et à la tête de ce royaume, il va y avoir un nouveau roi, Sennachérib, le fameux Sennachérib. Il va accéder au pouvoir. Et alors, Ézéchias, dans son petit royaume de Juda, va saisir l'occasion de ce changement politique majeur, bien sûr, pour se révolter contre le joug assyrien. Et il refuse de payer le tribut annuel qui est dû aux Assyriens, dont je vous ai parlé plus haut. Et donc, de protecteur qu'elle était, la Syrie devient alors une menace pour Juda. Et se profile petit à petit, frères et sœurs, à l'horizon, la menace de l'invasion du siège de Jérusalem. Et c'est pendant cette période de menace, qu'Ésaïe va écrire le chapitre 30 dont nous avons lu les quelques versets tout à l'heure. Que va faire le bon roi Ézéchias devant la menace assyrienne? Ézéchias va être poussé, influencé au sein de son royaume et de ses conseillers par un parti pro-égyptien. Là encore, la politique, ça a toujours existé. Par un parti pro-égyptien qui le pousse à se tourner vers l'Égypte et à chercher auprès de l'Égypte le secours pour faire le contrepoids des Assyriens. Et quelquefois, nous aussi, nous avons cherché le secours dans le monde. Nous avons été aussi à la place d'Israël. Et c'est ainsi qu'Ézéchias fait alliance avec l'Égypte pour résister aux armées de Sennachérib, ce fameux roi. Et nous avons lu au début de ce chapitre 30 la dénonciation, frères et sœurs, de cette alliance par Ésaïe. Je relis les premiers versets. Quel malheur pour les fils rebelles. Alors les fils rebelles ici, ce sont les fils de Juda. Déclaration du Seigneur. Il s'engage dans des projets qui ne viennent pas de moi. Il conclut des traités que je n'ai pas inspirés pour accumuler des péchés sur péchés. Il descend en Égypte sans m'interroger pour se réfugier dans la forteresse de Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Et quand Sennachérib viendra quelque temps plus tard envahir Juda, il enverra alors un émissaire à Ézéchias, un émissaire qui lui reprochera cette alliance avec l'Égypte. Et nous trouvons cela au chapitre 36 d'Ésaïe. Je vous recommande de prendre ce texte avec moi au chapitre 36. Ésaïe chapitre 36. La 14e année du roi d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabsaké avec une puissante armée. Rabsaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sous le chemin de champ du Foulon. Alors Éliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shenna, le secrétaire de Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabsaké dit à Ézéchias, « Ainsi parle le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sous laquelle tu t'appuies ? Quelle est cette confiance sous laquelle tu t'appuies ? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Devant la menace assyrienne, Ézéchias se tourne vers l'Égypte. Combien de fois, frères et sœurs, nous nous sommes tournés vers le monde devant la menace de l'ennemi, devant les difficultés, plutôt que de nous tourner vers le Dieu très haut, celui qui nous a sauvés. Ézéchias va se tourner vers l'Égypte. Et quand Ésaïe écrit ce chapitre 30, les émissaires de Juda sont déjà en Égypte. Ils sont déjà en route, verset 4. Déjà, ses princes sont à Soan et ses messagers ont atteint Anès, les premières villes de l'Égypte. Juda cherche la protection de l'Égypte. Le peuple de Dieu cherche un abri à l'ombre de l'Égypte, alors qu'il aurait dû chercher cette sécurité en Dieu. Et cette ombre auprès de Dieu, comme dit le psalmiste au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà l'attitude de Juda. Voilà cette attitude que Juda aurait dû avoir, mais il n'en est rien. Et plutôt que de chercher son refuge en Dieu, le peuple, le roi, cherche refuge en Égypte. Quelle folie! Quelle mémoire courte! N'ont-ils pas été esclaves en Égypte? Comment ont-ils pu oublier toute cette histoire, cet héritage? Dans notre texte, frères et sœurs, Ésaïe va prédire que toute cette tentative d'alliance est vouée à l'échec. Et c'est ce que nous avons lu au verset 5. Il est dit, tous seront honteux. Ésaïe avait prédit l'échec de cela, de cette alliance. Il dit, tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide. Ni pour les secourir, ni pour les aider. Mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Et puis au verset 7, car le secours de l'Égypte n'est que futilité et néant. Futilité et néant. Ésaïe dénonce cette alliance, la folie de se confier dans une puissance humaine qui plus est idolâtre. Mais à ce stade, Le peuple est comme nous, quelquefois. Le peuple ne veut pas écouter ce que Dieu dit, ce que veut, Dieu veut dire par la bouche de son prophète Ésaïe. Et c'est pour cela qu'Ésaïe les compare à des fils rebelles, qui ne veulent ni de Dieu, ni de ses prophètes. Et c'est ce que nous lisons au verset 9. « Car c'est un peuple rebelle, dit-il. Ce sont des fils renégats, des fils qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants, aux prophètes, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des paroles flatteuses. Prophétisez des chimères. Parlez-nous avec complaisance. Caressez-nous dans le sens du poil. Dites-nous ce que nous voulons ou que nous avons envie d'entendre. » De ce refus d'écouter Dieu va entraîner le jugement de Dieu sur son peuple. Avec l'image d'un mur, dit-il dans le texte, qui s'écroule et d'un vase qui se brise. Ésaïe annonce le jugement de Juda dans les versets 12 à 14. À cela, dit-il, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous mettez votre confiance dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette faute, ce péché sera pour vous comme une brèche menaçante qui fait un renflement dans une muraille élevée. En un instant, tout à coup, elle s'écroule. On la brise comme on la brise, comme on brise la jarre des potiers. On la met en pièces et on ne l'épargne pas. Et cette débris ne laisse pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. Nous aussi, lorsque nous nous confions dans le monde, dans les plaisirs du monde, eh bien, c'est comme cela que le Seigneur nous brise. Mais grâce à rendu à Dieu, Dieu châtie celui qu'il aime. Peut-être que cette alliance avec Juda paraissait être un petit compromis, un peu comme une petite fissure dans un mur, dans laquelle l'eau s'introduit, creuse à l'intérieur, et puis un jour tout s'effondre. Ce qui paraît anodin, frères et sœurs, au début entraîne par la suite la ruine. Le diable travaille toujours dans les détails. C'est donc dans ce contexte d'éloignement du peuple, et dans ce contexte aussi d'annonce de jugement, que le prophète Ésaïe prononce ces paroles de notre verset ce matin, un verset si bien connu. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Et nous arrivons au deuxième point, l'explication du verset. Que veut dire ce verset? Comment faut-il le comprendre, ce verset 15? Dans ce verset, Ésaïe définit ce que la nation aurait dû faire. Et surtout ce que la nation devrait faire. Plutôt que de recourir à l'alliance avec l'Égypte. Et il dit tout d'abord, c'est en faisant demi-tour. Et puisque c'est dans le repos que sera leur salut. Cela veut dire, frères et sœurs, c'est qu'avant tout, Ésaïe appelle le peuple à la repentance. Parce que le mot qui est traduit ici par demi-tour est le mot qui est généralement utilisé dans l'Ancien Testament pour la repentance. C'est un mot qui vient de la racine de revenir, retourner. L'ancien second traduit par tranquillité. Mais la nouvelle Bible second dit, c'est en faisant demi-tour. C'est en faisant demi-tour. Et la Bible du Semeur, frères et sœurs, est beaucoup encore plus explicite, plus précise pour souligner cette repentance. Il dit, c'est si vous revenez à moi. Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Ça, c'est la traduction du Semeur. Alors, il faut bien évidemment voir ici un double sens. Il y a le sens de la repentance. Mais il y a aussi l'idée du retour physique des émissaires. Ce demi-tour, ce retour en arrière, c'est la repentance, mais c'est aussi de repartir de l'Égypte. À un moment donné, frères et sœurs, l'Esprit nous demande de sortir du monde. Mais dites-moi, les changements de cœur n'entraînent-ils pas toujours un changement de direction dans nos vies? Esaïe appelle donc le peuple à la repentance, mais ce n'est pas tout. Si le peuple doit revenir à Dieu, il doit aussi rester tranquille. Il doit aussi se reposer en Dieu. La tranquillité ou le repos, c'est l'attitude de la confiance même. C'est l'attitude de celui qui est revenu à Dieu et qui surtout se confie en lui. Et nous devons souligner ici ce qui est dit dans ce verset. Ce qui est dit dans ce verset est vraiment aux antipodes, à l'opposé de ce que le peuple a fait. Parce que le peuple s'est occupé, tout comme nous quelquefois, s'est occupé à se sauver lui-même. Il a été occupé à trouver lui-même la solution à son problème. Et l'attitude que Dieu lui demande est à l'opposé de ce qu'il a entrepris, de ce qu'il est en train d'entreprendre. Faites demi-tour, revenez à moi. Dieu, frères et sœurs, préconise le calme qui traduit la confiance alors que le peuple est dans l'effervescence, dans l'action. Il refuse ce chemin du calme et de la confiance. Allons-nous ce matin refuser ce chemin du calme et de la confiance en Dieu? Et c'est ce que nous lisons si nous continuons au verset 16. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Allons-nous ce matin, frères et sœurs, dire non? Allons-nous ce matin dire non au Seigneur? Nous prenons, ils disent, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Autrement dit, ils vous rattraperont. C'est donc à la confiance que Dieu invite Judas. Et nous aussi, à l'attente confiance, au calme, au repos, à la tranquillité de celui qui sait que Dieu est aux commandes de tout. Revenir à Dieu et le laisser agir dans nos vies. Bien des fois, la parole de Dieu nous exhorte à agir ainsi, à avoir une telle attitude. Elle nous exhorte à nous attendre à Dieu. Elle nous exhorte à espérer en Dieu. Elle nous exhorte à nous confier en Dieu et non à prendre notre destinée dans nos mains. Voilà une très courte sélection, je vous propose une très courte sélection de tous les versets que l'on aurait pu choisir pour illustrer ce que je suis en train de vous dire ce matin. Psaume 27, verset 3. Si une armée se complaît contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 37, verset 15. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira pour toi. Psaume 59, verset 9. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur force, la force de l'ennemi, c'est en Dieu que j'espère, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Psaume 130, verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme m'espère, et j'attends ta promesse. Lamentations 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ésaïe 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, la solution pour Judas était de revenir à Dieu, de s'attendre à lui, était de remettre en lui sa confiance. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvé. C'est en faisant demi-tour, en vous reposant, que vous serez sauvé. Ce secours d'Ézéchias, il va l'expérimenter, Ézéchias. Il va expérimenter le secours de Dieu. Et oui, après avoir cherché refuge auprès des Égyptiens, Ézéchias va écouter Ésaïe et il va revenir à Dieu. Il a même imploré le secours de Dieu. Et nous le trouvons cela au chapitre 37. Je vous invite à le lire avec moi, chapitre 37, versets 14 à 20. Écoutez. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière. Écoutez la prière. Écoutez sa prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sous les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennacherib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'est point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Verset 20. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. Ézéchias est revenu à Dieu dans une attitude de confiance et Dieu va répondre selon sa promesse. Et toujours dans ce même chapitre 37, verset 36, il nous est dit ceci. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le champ des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Qui a dit que Dieu ne travaille pas? Qui a dit que Dieu ne prend pas soin de ses enfants? Qui a dit que Dieu ne protège pas ses fidèles? Verset 37. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nicroc, son Dieu, avec un petit dé, Adrémalek et Charetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Araha. Et Asad Eldon, son fils, régna à sa place. Ézéchias est revenu à Dieu et Dieu l'a délivré. Dieu nous délivrera toujours, frères et sœurs, si nous revenons à lui. La deuxième partie de ce verset ne fait que reprendre ce que la première partie disait. C'est le principe du parallélisme dans la poésie hébraïque. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé. J'ai prêché dans le psaume 73. Je crois que je fais un bon développement là-dessus. Je ne sais pas si c'est ici ou en Guadeloupe. Mais en tout cas, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Voilà ce que dit la fin du verset 15. La tranquillité, frères et sœurs, ici correspond au retour à Dieu dans la phrase précédente. C'est la fin de l'agitation de celui qui prenait les choses dans ses mains pour maintenant les donner à Dieu pour après être revenu à lui. Laissons les choses que nous ne maîtrisons pas dans les mains du Seigneur. Laissons Dieu gérer ces choses. Ne cherchons pas à essayer même par nos propres moyens de gérer les choses, parce que nous n'y arriverons pas. Seul Dieu peut nous aider à régler nos soucis et nos problèmes. Et quand bien même nous passons par la difficulté, si le Seigneur devrait nous prendre par la maladie ou autre, par la mort physique, gloire soit rendue à Dieu parce que nous serons dans la félicité avec lui. Oui, c'est dans la tranquillité, parce que j'ai tout confié à Dieu et la confiance que sera mon salut. La confiance est ici le repos Oui, le repos en Dieu. C'est quand je reviens à Dieu, frères et sœurs, même quand j'y suis déjà, quand j'y reste, quand je me repose en lui, quand je place ma confiance en lui, que je suis fort, que Dieu est ma force. Il y a une véritable force à se confier en Dieu. Il y a une véritable force à vivre à la dépendance de Dieu, dans la confiance que Dieu s'occupe de moi. C'est cela la véritable force du croyant. Et c'est l'apôtre Paul même qui écrira dans, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dans notre faiblesse. C'est une réalité spirituelle. C'est quand je suis faible, c'est-à-dire que je reconnais mon besoin de Dieu, c'est là que je deviens fort. C'est quand je suis dans une situation de dépendance et de confiance à Dieu, quand je reconnais ma faiblesse et mon besoin de lui, que je suis finalement fort. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point. J'aimerais simplement dire quelques mots d'application. Comment appliquer ce verset, cette promesse à notre vie, dans ma vie? Et j'aimerais tout d'abord souligner que nous n'avons pas ici une recette. Nous n'avons pas ici une formule magique, une méthode, une de plus sous le marché. Pour certains, c'est vrai, c'est la pensée positive que j'ai donnée en début du contexte. Mais pour nous les chrétiens, c'est ce verset d'Ésaïe 30, verset 15. À mon avis, ce n'est pas évidemment de tout cela qu'il s'agit. Il n'est pas question ici de méthode. Il est question de relation, frères et sœurs. Il est question de confiance. Ce dont il s'agit ici, c'est de s'en remettre à Dieu. Ce dont il s'agit ici, c'est de se reposer dans sa souveraineté. Ce dont il s'agit ici, c'est de reconnaître que toutes choses sont dans sa main. Et de reconnaître que ma vie est dans sa main. Parce que je l'ai placée, c'est de lui faire confiance chaque jour. C'est de cela dont il est question, dont il s'agit ici. Que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie d'église. Et dans tous les domaines. Il est tellement plus facile pour nous de mettre notre confiance ailleurs qu'en Dieu. Je l'ai expérimenté. Il est si facile de se confier dans ses propres forces. Je me croyais fort. On a tous des compétences, frères et sœurs, et on s'appuie dessus. Notre intelligence, notre capacité de déduction, notre jeunesse, notre bon sens, toutes ces choses sont bonnes, oui, c'est vrai. Notre sagesse, elles sont bonnes, mais si elles remplacent Dieu, cela devient un problème. Il est si facile de nous confier dans nos biens, dans nos richesses, dans notre carrière professionnelle, dans notre position sociale, peut-être. Il est si facile de tout faire, sauf de faire confiance à Dieu, sauf de s'attendre à lui, sauf de vivre dans le calme et la confiance en Dieu. Frères et sœurs, comment réagissons-nous devant la difficulté, devant l'épreuve? Comment réagissons-nous quand cela va mal dans notre vie? C'est quoi notre premier réflexe? En qui ou en quoi trouvons-nous refuge? Où allons-nous chercher de l'aide? Est-ce que c'est vers Dieu que nous nous tournons? La liste est immense de tout ce que nous pouvons prendre dans ces moments-là. Vers quelle Égypte? Oui, dites-moi, vers quelle Égypte sommes-nous tentés de nous tourner? Sommes-nous tentés de retourner? Vers quelle Égypte? Loin d'être une faiblesse, la confiance en Dieu est une force. Et c'est une force parce que je me repose en Dieu. Et parce que je sais que toutes choses et ma vie sont dans sa main. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, plus de circonstances douloureuses, plus d'épidémies. Et c'est la lecture simpliste, je dirais, de ces choses. Cela ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura plus de difficultés, plus de maladies, plus d'épreuves, parce que je fais confiance à Dieu. Cela ne veut pas dire non plus forcément que Dieu va me délivrer de l'épreuve que je traverse. Il peut très bien me dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. ma grâce te suffit. Et je dois, justement, avec cette grâce, continuer avec cette écharde dans la chair et continuer à le servir et à marcher en nouveauté de vie avec lui. Cela ne veut pas dire que Dieu nous délivre toujours comme il l'a fait pour Ézéchias. Mais cela veut dire que dans la confiance à Dieu, en Dieu, je peux traverser les épreuves de ma vie, que Dieu m'en délivre ou pas. Dans le calme et la confiance de celui qui sait ou qui se sait dans la main de Dieu. Frères et sœurs, dans le calme et la confiance de celui qui se repose dans le Dieu Tout-Puissant, dans le calme et la confiance de celui qui sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le calme et la confiance de celui qui sait que les voies de Dieu sont toujours, au final, les meilleures pour nous. Et tout cela, savoir tout cela, vivre tout cela, est une force véritable pour chacun de nous. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà un défi majeur pour nous, pour notre foi au-delà de ce Covid-19, celui de toujours placer notre confiance en Dieu. Et cela, quelles que soient les circonstances, des fois c'est difficile, c'est vrai, ça va pas tout seul, il y a toujours quelques obstacles. Et d'autres fois, il va falloir le vouloir, il va falloir le choisir. Parce que le retour en Égypte, frères et sœurs, le retour dans le monde est tentant. Et en tout cas, nous apparaît comme une bonne solution parfois. Dieu nous accorde de pouvoir placer notre confiance en lui. Et commençons déjà aujourd'hui, et tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous, tout au long de ces semaines et ces mois d'années nouvelles qui se profilent devant nous. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu est bon en tout temps. Amen.